à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Alors oui, comme annoncé, il y a un petit changement. Xavier va nous rejoindre juste après. Et donc, moi, Rodolphe, je vais reprendre au déboté la direction de cette émission. Alors aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai avec moi d'autres collaborateurs de la revue Éléments avec Alexandre. Salut Alexandre.
Bonjour.
Avec Anthony Marinier aussi, notre spécialiste littérature.
Bonjour les auditeurs, bonjour Rodolphe.
Et notre spécialiste des entretiens, Daoud Bouguezala.
Merci, bonjour.
Alors, pour ce nouveau numéro, numéro 220, comme annoncé, un sujet alors sulfureux, mais qui fait son petit bonhomme de chemin avec la remigration. Et donc, pour commencer tout simplement cette émission, je vais faire un petit tour de table pour savoir un peu ce que nos chers contributeurs de la revue Éléments pensent de la remigration. Est-ce possible? Est-ce souhaitable? Sous quelle modalité? Donc, peut-être, on va commencer ce tour de table par Anthony.
Oui, merci de me lancer sur le sujet. La remigration, j'ai commencé par dire que c'est une nécessité, il me semble, pour les peuples européens. Parce que pour la continuité historique, ethnique de notre civilisation. Mais c'est malheureusement un terme qui charrie beaucoup de fantasmes et qui a un problème de définition. C'est-à-dire que quand on parle de remigration, on met derrière énormément de choses. Et ce qu'on s'est tenu, ce qu'on a essayé de faire en tout cas dans ce dossier présent de notre numéro 220, c'est justement d'abord de définir ce que c'est que la remigration. Pour cela, on s'appuie sur le livre de Jean-Yves Le Gallou qui est paru il y a quelques semaines aux éditions de la Nouvelle Librairie. Une fois qu'on définit le terme, je pense qu'il devient beaucoup plus acceptable et il peut percer dans le débat public.
Oui, parce qu'on dit souvent qu'avant qu'on puisse parler de remigration, il fallait parler de grand remplacement. Bon, on voit aujourd'hui que le mot, même l'expression, est repris par tout le monde. On la met souvent en opposition avec Jean-Luc Mélenchon et son concept de Nouvelle France. Donc, pour vous, la prochaine étape, quelque part, c'est la remigration et c'est l'étape qui va venir juste après.
Exactement, et comme je disais, ça charrie beaucoup de fantasmes, notamment à gauche, à l'extrême gauche et au centre. Si on prend juste quelques secondes pour définir un petit peu le terme, c'est dans un premier temps l'arrêt de l'immigration, qu'elle soit illégale et légale, c'est comme la base pour envisager toute remigration. Ensuite, le renvoi des clandestins étrangers, c'est pas quelque chose d'extrémiste ou ni même de radical. Le renvoi des OQTF, etc. Le renvoi des étrangers qui pourraient vivre uniquement d'assistanat et de prestations sociales. Et là où peut-être on rentre un petit peu dans le dur du sujet et où on pourrait avoir des soucis d'ordre juridique, etc., c'est pour les binationaux qui ne sont ni assimilés ni même intégrés et qui seraient hostiles à la France et à l'Europe. C'est peut-être ici où, politiquement et juridiquement, on aurait un souci. Mais vous voyez que, dans un premier temps, les premières étapes de la remigration, c'est quelque chose de tout à fait envisageable et ni extrémiste ni radical.
Oui, d'ailleurs, nos lecteurs retrouveront un panorama de la remigration à travers toute l'Europe. On ne s'est pas cantonné qu'à la question française, même si c'est celle qui nous préoccupe en premier. Il y a aussi des entretiens avec des personnalités en vue, comme Renaud Camus, Martine Selner aussi, Jean-Yves Le Gallou, que vous avez mentionné, Anthony. Donc, je vais continuer mon petit tour de table. Peut-être, Alexandre, toi, qu'est-ce que tu en penses ?
Sur la remigration, moi, c'est quelque chose que j'avais découvert il y a quelques années maintenant via Laurent Ozon, qui, il y a un peu plus de 10 ans, avait lancé le mouvement pour la remigration. Et c'est, il me semble, la première fois que j'ai été confronté à ce terme-là. C'est comme ça que j'ai découvert un petit peu ce qu'il recouvrait. Enfin, ce qu'il recouvrait n'est pas fondamentalement quelque chose de récent, parce que le Front National du temps de Jean-Marie Le Pen, dans ses premières années, parlait d'inverser les flux migratoires. Et qu'est-ce que la remigration, si ce n'est cette inversion, justement ? Christian Boucher a partagé récemment sur les réseaux sociaux une photo d'une affiche du National Front britannique des années 70 où il parlait déjà de repatriation. Donc, si la remigration est une idée neuve, ce qu'elle recouvre de manière pratique est quelque chose de vécu et de pensé comme absolument nécessaire depuis plusieurs années maintenant. La question est comment effectivement la mettre en œuvre. Il est évident que ça ne pourra pas se faire sans partenariat, et ça je sais que Laurent Ozon appuyait beaucoup sur les partenariats des pays méditerranéens, qu'ils soient sur la rive européenne ou sur la rive africaine, puisque les pays du Maghreb sont confrontés eux aussi à une immigration subsaharienne de plus en plus importante, et que des partenariats devront avoir lieu. Ils devront avoir lieu également avec des pays subsahariens.
Et d'ailleurs, sur la question des partenariats, on sait qu'il y a eu une annonce du côté de l'Allemagne récemment sur le cas syrien, et je crois que pour l'instant, il y a eu non-recevoir, enfin en tout cas, le gouvernement syrien a dit que justement, il ne les reprendrait pas apparemment. Oui, donc on voit à quel point c'est important de nouer des liens avec les pays de retour aussi sur cette question.
Oui, absolument, il va falloir montrer que la remigration n'est pas seulement un intérêt pour les Européens, parce qu'évidemment qu'il en est un, évidemment qu'il en est un pour les Français, puisque selon les chiffres, que ce soit ceux de Nicolas Pouvremonti que Daoud a interviewé, ou que ce soit ceux publiés par Marc Vanguard sur son site internet et Twitter, en 2018, un quart des enfants qui sont nés en France ont au moins deux grands-parents extra-européens. Ils étaient, dans ce cas-là, 2,5% en 1963. Donc si on continue sur la lancée et crie un effet, en 2044, la majorité des enfants qui naîtront sur le territoire national français seront d'origine extra-européenne. C'est grosso modo 2044, c'est aux alentours de 2050. C'était Jean Raspail qui évoquait cette date aussi il y a déjà plusieurs années, notamment dans une tribune dans le Figaro qui s'appelle « La patrie trahie par la République ». Donc il est évident que la remigration est une nécessité pour nous Français, pour nous Européens, mais est évidemment aussi un intérêt pour les pays d'origine de ces immigrés, puisque retrouver des forces vives et retrouver des ressortissants ne peut être qu'intéressant. Après, charge aux politiques de leur faire comprendre que c'est justement dans leur intérêt de récupérer leurs ressortissants.
Oui, tout à fait. Et donc, pour finir ce tour de table, Daoud, tu as justement fait l'entretien de Nicolas Pouvremonti aussi sur la question, plutôt sur l'immigration, mais qui recoupe aussi la question de la
remigration. C'est plutôt sur le diagnostic, voilà. Évidemment, mais tout programme politique commence par un diagnostic bien établi. Alors, je me retrouve assez dans la définition de la fusée en plusieurs étages, en quelque sorte, qu'a donné Anthony. Alors, bon, il reste au niveau... Je distingue aussi les temporalités, un petit peu comme Laurent Ouzan. C'est-à-dire qu'à long terme, oui, ce serait souhaitable idéalement. À court terme, pour des raisons à la fois juridiques et politiques, Thierry Dubois le dit très bien dans sa longue introduction, la moindre politique migratoire digne de ce nom semble impossible, puisque dans l'état actuel des choses, vu le rapport de force juridique, même le référendum sur l'immigration que voudrait appliquer le Front National, le Rassemblement National, pardon, s'il arrive au pouvoir, serait jugé anticonstitutionnel de toute évidence par les 9 membres du Conseil constitutionnel. Donc ça suppose une révolution juridique. Alors je ne suis pas juriste, et peut-être même une révolution copernicienne, hein, des consciences, hein, puisque une mesure politique qui n'est pas avalisée, qui n'est pas précédée d'un travail culturel, la nouvelle droite le sait bien, en fait, n'a aucune chance de se matérialiser vraiment. Et alors, je me souviens d'un débat qu'on avait eu dans un petit cénacle d'éléments sur la remigration, pourquoi, comment, son bien fondé, sa faisabilité. Et en fait, un de nos camarades, pour ne pas citer Gabriel Prignès, avait parfaitement résumé, à mon avis, le nœud gordien en disant « plus elle est nécessaire, plus elle est impossible, et plus elle sera jugée impossible, plus elle sera nécessaire ». Je pense que c'est une problématique intéressante. Par exemple, je serais bien moins optimiste qu'Alexandre sur le dernier point que tu as évoqué. Est-ce que les pays d'origine gagneraient vraiment et seraient enclins à récupérer les individus auxquels on pense? C'est pas forcément gagné. Tu citais le cas de la Syrie, qui est un cas très, très particulier, hein, géopolitiquement, mais ça me paraît pas évident. En fait, évidemment, ça suppose des partenariats de long terme, une temporalité, tout un travail. Mais je pense que le débat sur le comment ne fait que commencer.
Oui, mais ça, c'est évident que tout reste à faire, parce que en fait, le terme remigration vient à peine de sortir, on va dire, du petit milieu militant de droite radicale, pourrait-on dire. Il vient à peine de pénétrer les milieux plus politiques.
Alors Zemmour en avait un petit peu parlé, voilà, avec justement le commissariat en 2022.
C'est ça, ce qui reste quand même relativement récent dans l'histoire de cette réflexion, et il est évident que tout reste à faire et que la nature de ces partenariats devra être travaillée. Et ça va demander énormément de confiance, mais aussi parfois peut-être des mesures un petit peu coercitive ou tout du moins d'incitation très forte. Je ne sais plus si c'est dans l'article de Thierry Dubois ou dans l'interview de Jean-Yves Le Gallou où il est question justement de dire de limiter les transferts d'argent sur les pays concernés qui n'accepteraient pas telle ou telle condition, etc. Enfin, différents. Je pense que tout est à ce stade-là, tout est sur la table, évidemment.
Et justement, oui, on voit à travers le dossier de la revue que c'est une problématique à multiples entrées. Il y a la question de la fusée, on va dire, juridique. Il y a la question des liens qu'Alexandre vient d'exposer. Et il y a un peu aussi la question aussi qu'a mentionné Daoud, la question juridique. D'ailleurs, on a une question d'un auditeur. N'hésitez pas à intervenir et à nous poser des questions pour qu'on tâche d'y répondre du mieux possible en direct. Il dit « Comment inverser les flux migratoires quand on a une législation ?» qui est à l'inverse total. Je crois que c'était récemment sur les ondes de CNews, Nicolas Prouvremonti, justement, qui revenait sur l'importance aussi du Conseil constitutionnel que Daoud, vous venez d'évoquer. Et justement, là, la révolution copernicienne à faire, c'est aussi un bras de fer directement contre ce fameux état de droit qui est un peu... une expression un peu fourre-tout, il faut le reconnaître.
Avec ses ramifications internationales
avec
aussi.
Puisque parce qu'on parle de l'échelon Union européenne, de l'Union européenne aussi.
Voilà.
Et donc, une question qui nous est plutôt sensible dans la rédaction d'éléments, opposition quelque part entre la souveraineté populaire et la souveraineté législative, ce genre de choses. Est-ce que c'est un des grands enjeux aussi que peut faire naître la remigration, cette opposition entre un peuple qui aspire à quelque chose et d'un côté, j'ai envie de dire, un bunker d'élite, de patronat qui justement mène, ou de juges qui mènent la résistance contre cette aspiration du peuple parce que ça change notamment sur la question migratoire.
Oui, bah c'est le pays légal contre le pays réel.
Quelque part, voilà. Vous l'avez dit, Anthony.
C'est une interrogation très juste de la part de l'auditeur et effectivement, que ce soit dans son livre ou dans l'interview qu'il donne pour notre numéro récemment sorti, Jean-Yves Le Gallou explique très bien que la remigration ne se fera pas sans un juge exit. Hein, donc il crée ce néologisme.
Merci, repris du Frexit, du Brexit. Donc là, c'est la sortie du pouvoir des juges, quelque part.
Exactement, oui. Il parle de dictature des juges, non sans raison à mon sens. Et il explique très bien, comme vous venez de le rappeler, qu'on a une mainmise de la justice et notamment... du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Enfin, y a toute une liste d'instances judiciaires qui ont pris la main sur le pouvoir politique. C'est littéralement ce qu'on appelle l'État de droit, sauf qu'effectivement, l'État de droit sert un but politique qui nous est défavorable.
Oui, et d'ailleurs, tout récemment, il me semble que c'est dans le JDD de ce dimanche, M. Darmanin a dit qu'il ferait un moratoire sur l'immigration légale. Or, pendant la période Covid, quand on a eu une restriction à ce niveau-là, ça a été cassé derrière par le Conseil constitutionnel en mentionnant justement par diverses lois qu'on ne pouvait pas le faire. Donc là aussi, c'est peut-être un des grands enjeux pour les partis politiques qui arriveront peut-être au pouvoir dans les années à venir, s'ils veulent restreindre en tout cas l'immigration, c'est qu'il va y avoir une résistance législative.
Il y a aussi d'ailleurs l'aberration, c'est qu'on est arrivé à ce que l'État de droit et le juge de fait, entrave l'application de la loi, puisqu'il me semble, même à l'échelle européenne, il doit y avoir une directive, je ne sais plus quelle jurisprudence, qui interdit tout bonnement, simplement, aujourd'hui, les reconductions collectives, comme dans les années 90, que voulu faire Pasqua à l'époque, à la grande fureur des médias et de l'intelligentsia bien pensante. Donc aujourd'hui, en fait, on est arrivé à cette aberration où, en fait, comme le dit Christophe Guilly, l'immigration est le sujet de consensus numéro un en France. Contrairement à ce qu'on nous dit dans les médias, c'est à peu près au moins deux tiers des Français est d'accord sur le diagnostic, peut-être pas sur les solutions à apporter. Et en fait, on en est arrivé au point, un point totalement ubuesque. En fait.
Bah, d'ailleurs, Daoud, vous qui connaissez bien la situation italienne, on sait que Meloni a voulu mettre en place aussi des centres de rétention, il me semble, c'était en Albanie. En Albanie, exactement, qui a été cassé directement par les juges romains. Donc, est-ce qu'on a, c'est justement une des entrées aussi de notre dossier, des solutions qu'on tente de faire émerger en Europe. Peut-être pouvez-vous revenir sur le cas italien avec Meloni.
Le cas italien, ça nous renvoie à des débats sur les interférences entre la magistrature et le pouvoir politique en Italie, qui ont peut-être d'ailleurs précédé ceux de la France. Effectivement, Meloni s'est fait élire sur un programme très volontariste, y compris de blocus naval, qui malheureusement s'est révélé être de l'incantation. D'ailleurs, elle l'a dit après coup, que finalement, c'était une espèce d'idée... voilà, qui n'avait pas vocation à se concrétiser, et elle ne s'est pas du tout concrétisée. L'idée de Meloni, qui n'était pas idiote, c'était de faire de l'Albanie une espèce d'état tampon, en jouant évidemment sur le rapport de force, hein, puisque l'Albanie était recevée. Un petit peu, il me semble que le parallèle, c'était un petit peu ce qu'a fait... le Royaume-Uni avec des pays comme le Kenya, si je ne dis pas de bêtises.
Le Rwanda,
c'est ça ?
Il me semble, le Rwanda, oui.
Ça doit être ça. Et de faire une espèce de camp, hein, ça aurait un peu réduit l'Albanie, une partie de l'Albanie à un camp. Le pouvoir albanais qui était en recherche aussi de liquidité était preneur. Mais effectivement, ça a été cassé par les juges. Et en fait, j'en parlais à Nicolas Pauvremonti dans l'entretien qu'on a fait dans ce dossier. Il y a aussi chez des gens comme Trump ou Meloni, lui redore un petit peu le blason de Meloni en expliquant qu'il y a quand même un certain bilan, ce qui n'est pas nul au-delà des affaires qu'on évoque. Il y a aussi un effet presque prophétie autorisatrice, c'est-à-dire qu'il y a un effet dissuasif sur les candidats à l'immigration, ne serait-ce que par le discours de dureté, de rigueur, ne serait-ce que d'évoquer l'inversion des flux migratoires.
Et justement, Alexandre, vous avez évoqué au début de l'entretien la nécessité du dialogue aussi des pays, des nations, des cultures. C'est aussi une thèse qui nous est chère à Éléments et qui nous sort parfois un petit peu d'un certain dialogue de droite, choc des civilisations. Parce que vous avez mentionné par exemple le cas de Laurent Ozon, mais c'est vrai que nous, à la Nouvelle Droite, ça fait depuis des années qu'on avance qu'il faut un dialogue, qu'il faut essayer de l'amener par des instruments ou en tout cas par des manœuvres les plus pacifiques possibles avant d'en arriver peut-être à des clashs ou à des solutions violentes. Et par exemple, si je prends le cas syrien, le gouvernement syrien disait justement que les diasporas en Allemagne sont des actifs stratégiques. Et on sait qu'aujourd'hui, une partie notamment de certains pays maghrébins joue notamment sur les diasporas en France parce que c'est des instruments d'ingérence étrangère directe très puissante sur le contrôle de la rue, sur le contrôle économique, commercial, ce genre de choses. Même avec certains politiques, on sait à quel point il y a parfois un certain clientélisme avec certaines municipalités à travers des communautés. Donc, comment voyez-vous, ce dialogue culturel, le dialogue à quel point est-ce qu'au bout d'un moment, il faut aller par des solutions violentes pour justement, pourquoi pas, aboutir à une remigration. Comment vous voyez ça dans les années à venir ?
Sur la question de la remigration, les lecteurs pourront le trouver dans le dossier. Il y a cette phrase que je cite de mémoire, mais qui veut que pourquoi la remigration ? La remigration parce que c'est la dernière étape, pourrait-on dire, pacifique pour que les choses se passent bien. Avant que les clashs arrivent. Donc en fait, c'est une volonté justement de calmer le jeu, la remigration. Et le dialogue des cultures, la nouvelle droite c'est une nouvelle pour personne ethno-différentialiste, dans la lignée de Lyotet, dans la lignée de Lévi-Strauss, notamment avec sa conférence de 71, si je ne me trompe pas, l'UNESCO, race et culture.
Oui, vous avez bien fait de préciser que le dialogue des cultures n'est pas un multiculturalisme à l'anglo-saxonne.
C'est de l'ethno-différentialisme, et c'est que la diversité que nous chante la bien-pensance depuis un nombre d'années incalculable aujourd'hui, et Mélenchon de plus en plus de manière de plus en plus agressive, la véritable diversité, la diversité des cultures dans le monde et non pas la diversité des cultures dans un pays. Encore que, évidemment, on met à part les cultures régionales qui sont, elles, un patrimoine justement du pays en question. Donc il faut effectivement faire dialoguer les différentes cultures, mais ce dialogue ne peut avoir comme un cadre, et ce cadre, c'est le respect des intérêts de chacun. Et il est clair que l'intérêt de la France et l'intérêt des pays européens de manière plus large, c'est évidemment de pouvoir retourner à une forme d'homogénéité, mais comme c'est le même intérêt pour les pays en question. Si vous allez voir un Malien en lui disant que dans 10 ans, la quasi-totalité de la population malienne sera d'origine asiatique, je ne suis pas sûr que ça lui fasse très plaisir. Donc, et il aura parfaitement raison, puisque si vous allez visiter le Mali, c'est peut-être pour aller voir la culture Dogon. Si vous vous retrouvez avec une majorité de la population qui est indonésienne, vous serez un petit peu surpris.
Mais là aussi, il y a un contre-argument, hein, je me fais l'avocat du diable, c'est de dire pour ces pays-là, si, à supposer que la remigration se fasse, est-ce qu'ils ne perdraient pas en homogénéité, sinon ethnique, du moins culturelle, quand on voit, ça a été abordé ces dernières semaines dans les médias, quand on voit notamment à l'occasion des vacances, certains franco-maghrébins revenir au pays, ne serait-ce que le rapport à l'autorité, à la police, etc. Il y a quand même, il y aurait un travail de rééducation à faire.
Ah, ça ne se ferait pas, voilà. Ça ne se ferait pas sans heurts, parce qu'effectivement, c'est le drame de l'immigration. Ils ne sont pas chez eux, chez c'est nous. Ça. Ils ne sont pas chez c'est eux, voilà. Chez eux, entre guillemets. Enfin, tout du moins dans le pays d'origine. Et il est clair que ça, c'est un problème qu'il va falloir, qu'il faudra régler, mais qui concernera en premier lieu, ben justement, ces pays-là. Alors après, effectivement, il est parfaitement envisageable, je pense, que nos pays européens puissent justement accompagner ces pays d'origine dans une dans leur on va dire la reculturation de leurs ressortissants ou de leurs descendants de ressortissants qui sont venus chez nous. Ça c'est évident. Et pour revenir juste sur la question précédente, sur la question de la loi, c'est dans l'article de Thierry Dubois qui dit que justement, évidemment que dans le cadre actuel des choses et législatif, rien n'est possible et le Conseil constitutionnel bloque absolument toute décision. Donc il est évident que ça nécessitera de nouvelles dispositions légales, juridiques et constitutionnelles. Et sur la Constitution, bah, en fait, on se dit, mais si c'est constitutionnel, il peut rien se passer. Mais Thierry Dubois le rappelle très bien, c'est que la Constitution se change. Il donne les chiffres. Elle a été révisée 25 fois depuis 1958, dont 17 depuis 1995. Donc, c'est quelque chose qui est, à mon avis, parfaitement possible, parfaitement faisable. Ça a déjà été fait. Et il faudrait rajouter là-dessus, évidemment, le référendum et la décision du peuple, puisqu'effectivement, 65 à 70% de Français considèrent qu'il y a trop d'immigration en France. Donc, il faut redonner, justement, sur cette question-là, la parole au peuple.
Et justement, restons un peu sur cette dimension européenne. On voit des pays aujourd'hui qui, par contre, sont parfois à contre-courant de pays comme la France, qui ont connu une immigration depuis longtemps. Peut-être aussi revenir et rappeler que l'immigration, on va dire, de masse extra-européenne ne date pas de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Déjà, dès les années 60, et surtout dans les années 70, on a une accélération par Pompidou, Giscard d'Estaing, le regroupement familial en 76, etc. etc.
Et c'est une espèce de coup d'état des juges aussi,
oui,
hein, le
aussi,
regroupement
aussi.
Familial. Je ne dis pas ça pour défendre Giscard, dont je n'ai pas grand-chose à faire,
oui,
mais il a peut-être péché par négligence, mais le Conseil d'État, puis le Conseil constitutionnel, d'ailleurs Nicolas Pouvreau revient là-dessus, c'est une décision qui a été prise dans un cadre tout à fait adémocratique.
Hein. Alors, vous avez raison, Daoud, de mentionner cela. Or, les juges ne fonctionnent pas aussi en vase clos. Derrière, il y a aussi un lobby patronal qui a largement appuyé. Et d'ailleurs, une question d'un auditeur qui revient sur la question du patronat. On voit aujourd'hui, il y a eu cette régularisation massive en Espagne. On voit aujourd'hui que certains pays de l'Est qui ont une certaine croissance, notamment par rapport aux démocraties de l'Ouest, commencent plutôt dans les capitales à faire venir une certaine immigration. Je pense un peu à la Pologne, même si le phénomène par rapport à la France reste sans équivalence, évidemment. On a vu certaines déclarations aussi récentes en Ukraine, assez importantes, justement, sur cette volonté de faire venir une certaine main-d'œuvre. Est-ce qu'on va pas aussi peut-être marcher dans les années à venir dans une Europe un peu à double vitesse sur la question migratoire, entre d'un côté une Europe peut-être qui se droitise, il est vrai, dans son entièreté, mais par contre, des pays qui n'ont peut-être pas connu ou qui n'ont pas le même historique à l'immigration que nous avons, ou nous avons eu le temps de faire ce diagnostic que vous mentionniez, Daoud, et justement avec d'autres pays en Europe, notamment sous la pression des patronats, je pense notamment à la question de l'Union européenne, du grand quartier des lobbies qui influencent énormément sur les textes de loi qui sont votés au Parlement et notamment à la Commission. Donc est-ce que là, on va pas avoir une Europe qui marche un peu à contresens parfois, et justement une volonté des patrons de toujours faire venir une masse avec des populations de plus en plus vieillissantes en Europe?
Oui, alors la remarque de l'auditeur est tout à fait pertinente. Effectivement, on a tendance à penser que l'immigration, c'est l'extrême gauche qui est son premier promoteur qu'il faut dégauchiser le pays pour pouvoir envisager des politiques d'immigration restrictives. L'auditeur fait très bien de rappeler que l'immigration, le patronat l'encourage, on a eu besoin et l'appelle de ses voeux. Que ce soit les restaurateurs, que ce soit dans le BTP, enfin à peu près dans tous les secteurs. Et je pense que c'est l'angle mort beaucoup de la part d'une certaine droite radicale très identitaire de militer pour la remigration, ce à quoi je suis totalement d'accord, mais sans remettre en cause le capitalisme et le libéralisme. Et nous, à la Nouvelle Droite, il me semble que ce travail-là, on le fait depuis des décennies. Et effectivement, il me semble inconséquent d'être à la fois militer pour la remigration, mais dans le même temps, vouloir conserver le même système capitaliste productiviste et ne pas envisager une certaine forme de décroissance. Alors, peut-être pas aller jusqu'à la décroissance à la Sandrine Rousseau, etc. Hein, mais voilà, ne pas coupler les deux, ne pas envisager au moins de remettre en cause les principes fondateurs du capitalisme et du libéralisme ne me semble pas être une bonne chose.
Mais justement, cette droite, vous opposerait les arguments qu'on retrouve dans le livre de Nicolas Pouvremonti, que de 1, l'immigration coûte plus que ce qu'elle rapporte, de 2, qu'on va vers une robotisation, et en tout cas avec le développement des IA, une transformation du marché du travail, et que donc tous les patrons auraient intérêt à justement considérer avec des arguments libéraux, des arguments capitalistiques, que l'immigration est un coût pour ces sociétés. Alors oui...
Alors, je serais bien d'accord avec vous si on était encore dans les années 70 ou 80, où la France avait encore une industrie. Aujourd'hui, on est dans un statoconsumérisme où en fait, on fait venir avant tout des consommateurs.
Exactement.
Et effectivement, ce qui fait tourner aujourd'hui de la machine économique en France... C'est les subsides qu'on balance à absolument tout le monde.
Oui, c'est
pour qu'ils puissent consommer.
Les travaux de Jérôme Fourquet sur la manne et même la configuration de notre économie, largement fondée, oui, sur la tiersarisation et aussi le fait d'avoir ces grands centres urbains qui ne produisent plus de richesses, on va dire productives ou en tout cas industrielles. Et de l'autre côté, cette France périphérique qui est poussée dans la simple consommation avec une large redistribution pour que tout se consume.
Et puis, comme le dit Nicolas Pouvreau, ce ne sont pas des contributeurs nets qu'on fait venir. Donc, en fait, ça poursuivrait la courbe de l'explosion des dépenses publiques. Je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais on est passé, je crois, de 46% à 57% du PIB en quelques décennies. Donc, puisque je vais faire un peu d'économie, l'assiette des contributeurs, des contribuables solvables qui payent un impôt se rétrécit. On paye toujours plus pour des dépenses qui augmentent toujours plus. C'est un peu le contre-modèle marseillais. C'est pas viable à terme. Et en même temps, il y a une temporalité à courte vue de certains patrons qu'on peut comprendre si on raisonne de manière tout à fait économiste, puisque dans des pays comme l'Italie ou même en France, maintenant, vous avez des pénuries de main-d'œuvre dans la restauration, on cherche des garçons, etc. Et donc, ce qui fait que des pays comme l'Italie ou la France vont signer des contrats pour faire venir des filières, par exemple, de serveurs tunisiens. Effectivement, ça demande de repenser l'économie, sachant qu'on va peut-être pas remplacer les garçons de café par des robots demain. Voilà.
Oui, c'est quelque chose effectivement qui viendra, ce remplacement de la main d'œuvre par la robotique.
Ah bon ?
Mais en Asie, ils commencent déjà à avoir de plus en plus de robots en guise de serveurs. Alors pas dans tous les restaurants, mais ça se développe. Et il semblerait qu'ils commencent à avoir aussi des robots en cuisine. Donc de plus en plus. Alors évidemment, ça ne sera
plus
pas.
Ils sont plus aimables que.
Ça, ça doit être une question de programmation. Ouais. Je pense que...
pour réchauffer des plats surgelés, il n'y a pas besoin de.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a justement. C'est là où certains milieux, bah, notamment la restauration, il y a le savoir-faire qui, à mon avis, ne sera pas atteignable par la robotique. S'il s'agit de tâches répétitives, comme le disait Anthony, de réchauffer au micro-ondes un plat surgelé, un robot peut le faire très facilement.
Mais ça, c'est inquiétant parce que les machines ne se laisseront pas remigrer.
Non, ça, c'est certain.
Mais justement, messieurs, pour revenir un petit peu sur le sujet de la remigration, il rentre en écho avec un autre sujet qu'on a mené il y a quelques numéros, qui était le sujet sur la démographie. Et là, j'ai une question d'un auditeur sur la politique nataliste. Est-ce que forcément une politique de remigration doit être accompagnée d'une politique, on va dire, nataliste autochtone ? On le sait aujourd'hui, les populations européennes sont en hiver démographique. Il y a un renversement, justement, de cette fameuse pyramide des âges. On le sait que, notamment, notre modèle social est fondé sur une relation entre les actifs et les non-actifs qui nous oblige à repenser aussi notamment notre système de retraite. Donc, est-ce que la question de la remigration est forcément liée à cette question aussi de la natalité ? Est-ce que justement, à chaque fois qu'on est obligé de reparler de la remigration, il faut parler, comment dire, de remettre la famille au centre justement du logiciel politique et de remettre en place une politique nataliste tout simplement.
Oui, ben je pense que il est évident que la natalité, la chute démographique est une question centrale des années à venir, mais je ne suis pas certain que la seule politique nataliste d'un point de vue d'incitation financière soit très efficace. Je pense que le problème démographique dans le monde, pour le coup dans le monde occidental, puisque ça concerne aussi bien l'Europe que l'Amérique que la Corée du Sud par exemple, qui est extrêmement occidentalisée, ce problème-là est bien plus profond que de simples incitations financières pourraient régler. Il y a aussi une question de la représentation de la famille dans la société, la représentation du rôle de mère, la représentation du rôle du père. Le fait aussi que les deux aujourd'hui sont relativement similaires, mélangés, ou qu'un père est une mère comme les autres, ou là, une sorte de dénégation aussi des femmes qui choisiraient le fait d'élever leurs enfants plutôt que de continuer leur carrière, l'impossibilité même d'avoir le choix pour la majorité d'entre elles, donc et l'image qui est renvoyée, il y a un chantier énorme là-dessus qui évidemment on ne pourra pas en faire l'économie et il faudra le traiter en parallèle de la question de la remigration, en sachant évidemment que si vous réglez le problème, enfin régler ce problème de la démographie, c'est quelque chose qui se voit non pas immédiatement, mais on en récolte les fruits 18, 20 ans, 25 ans plus tard, une fois que les enfants qui seront nés auront grandi et seront rentrés dans le monde actif.
Oui, puis quand même rappeler sur la question du lien entre immigration, travail et notre modèle social, que l'immigration de travail n'est pas la première cause de l'immigration aujourd'hui. Donc,
oui, c'est les étudiants, il me semble.
Et puis, historiquement, Anthony a raison, en fait, c'est lorsque le gouvernement Barre, je crois, a déclaré la fin de l'immigration de travail, que, comme il y a eu concomitamment une espèce de coup d'état des juges, l'immigration de peuplement a explosé.
Oui, oui. Oui. Oui, et qu'aujourd'hui, c'est effectivement l'immigration de travail, si je me rappelle bien des chiffres, c'est 13 ou 14%. Donc autant dire quasi rien.
Et si on part sur notre modèle social, bon là ça nous amènerait sur des sujets vraiment où on sortirait du sujet, mais faire un simple rappel que il faut réduire les retraites géantes des boomers et rendre aux actifs le fruit de leur travail.
Mais justement, revenons sur cette question très pragmatique. On sait ou en tout cas on connaît en France depuis des décennies une immigration intra-européenne, ensuite largement compensée ou en tout cas remplacée par une immigration extra-européenne, maghrébine et aussi d'Afrique noire. Et on est arrivé, je vais un peu être provocateur quelque part, à cette nouvelle France aujourd'hui qui n'est pas que générationnelle. Jean-Luc Mélenchon joue toujours un peu sur l'ambiguïté en disant « mais il y a toujours eu de nouvelles France et le changement des générations ». Oui, sauf qu'on n'est pas dupe. On sait que la France qui est remplacée de génération en génération change en tout cas assez largement. Et donc justement, on en arrive à cette question de la remigration. Je crois que Jean-Yves Le Gallou revient justement sur ces différents stades d'assimilation ou en tout cas d'origine. À quel seuil placer le degré de remigration? On sait qu'il y a eu des mélanges, parfois du métissage, ce genre de choses. Jean-Luc Mélenchon s'en sert comme d'un argument politique aujourd'hui. Donc justement, si on plaçait ce seuil, déjà où le placer? Et ensuite, dans le cas d'une politique, ou en tout cas d'une mise en place d'une politique de remigration, ne donnerions-nous pas, quelque part, un nouveau mythe résistantialiste à la gauche, qui, on le sait, aime beaucoup revenir sur la mythologie de la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Et d'ailleurs, on s'en souvient avec le cas Leonarda, à quel point juste le cas Leonarda avait fait une vraie effervescence dans les médias, et à quel point ça peut être un mythe mobilisateur de résistance aussi pour la gauche.
Oui, vous avez tout à fait raison, Rodolphe. C'est d'ailleurs pour ça que le terme remigration charrie autant de fantasmes, surtout à l'extrême gauche, qui pourrait, comme vous avez très bien dit, créer un nouveau mythe mobilisateur du résistantialisme. Et c'est pour ça que le travail de définition qu'aujourd'hui la nouvelle droite, Jean-Yves Le Gallou et les milieux identitaires font est extrêmement important. Parce que, effectivement, l'idée, hein, il me semble que c'est à peu près compris par tout le monde chez les militants, mais c'est pas de renvoyer l'intégralité des extra-européens de France. C'est ni souhaitable ni possible de toute façon. Et effectivement, Et oui, excusez-moi. Oui, c'est ni souhaitable ni possible. Le problème de la définition du terme, c'est que typiquement, il n'existe même pas dans le dictionnaire. Donc, notre travail, c'est effectivement de faire infuser ce terme dans les milieux politiques, dans les milieux intellectuels, pour que, à terme, cette question ne soit absolument plus taboue.
Après, pour faire une petite insiste sur Jean-Luc Mélenchon, un sujet que vous connaissez bien, c'est pas pour le flagorner, mais je trouve qu'il a quand même une certaine appréhension du réel par rapport à une grande partie de la gauche social-démocrate, François Ruffin compris. Lorsque François Ruffin fait un pas dans le bon sens en expliquant « je veux arrêter l'immigration légale de travail », c'est très bien comme déclaration, mais en 1973. En fait, on a l'impression que dans l'imaginaire social-démocrate, Luxemann, etc., en fait, ils en sont restés à la situation du début des années 70, donc avant le regroupement familial. Et évidemment, par clientélisme aussi, hein, par cynisme, tout ce qu'on veut, mais avec une démarche sincère qui est celle du vieux militant trotskiste qui n'a jamais vraiment cessé d'être, Jean-Luc Mélenchon s'adresse à une forme de pays réel qui est enquistée en France, notamment en Seine-Saint-Denis, où il y a 12 députés LFI sur 12, hein, donc ça marche. Mais au moins, il parle de la Nouvelle-France, c'est une forme de remplacement qui ne dit pas son nom, qui est ripolliné, voilà.
Exactement. Alexandre, peut-être ?
Oui, mais sur la question, effectivement, de ce mythe mobilisateur qui pourrait être celui de la gauche et de ce résistentialisme, il est évident qu'il faudra trancher sur qui remigrer. Et alors, je sais que Thierry Dubois met une date, il faudrait justifier une ascendance française, je crois, dans les années 50. Après, la question, c'est faut-il une seule, deux, trois, quatre ? C'est, tout ça est sujet... sujet à débat, je pense, mais il est évident que la remigration aussi telle qu'elle est présentée, notamment dans le numéro, ne peut être qu'encouragée ou le fait parce que au bout d'un moment, remigration ne peut pas se confondre avec expulsion. C'est justement ce qu'explique différents contributeurs, c'est que il faut des incitations, des aides au retour, supprimer tous les appels d'air qu'il y a en France, qu'il y a en Europe, mais ça sera un travail de longue haleine. De très très longue haleine.
Et justement, Daoud, vous évoquiez au tout début de l'émission cette révolution copernicienne juridique. Aussi peut-être mentionner l'aspect très matériel. On a évoqué rapidement les intérêts des patrons, de certains secteurs de l'économie. Anthony mentionnait par exemple une partie de la restauration. Il y a aussi des pans entiers qui vivent quelque part un peu de ces enjeux d'immigration, c'est les avocats. C'est une partie des associations aussi. Vous avez évoqué rapidement la rente politique. Bon, on va dire quelque chose d'annexe. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut l'admettre, toute une partie de la France vit politiquement, économiquement, j'ai envie de dire aussi culturellement dans cette idée d'une grande internationale, du pas de frontières. On se souvient de Cédric Herrou, la personne qui avait fait passer. Et d'ailleurs, ça revenait à la question juridique parce que c'était au nom d'une interprétation du bloc de constitutionnalité. Ouais. C'est une évolution aussi du Conseil constitutionnel. Donc là, on se retrouve quelque part avec un clivage entre deux France. Sur la question de l'immigration, alors est-ce que la question de l'immigration c'est la question de l'année à venir qui va faire naître un nouveau clivage un peu annexe justement du clivage droite-gauche, comment vous analysez
ça,
Daoud,
c'est un débat politique en fait, je comprends très bien, et normalement ça doit être soldé par la présidentielle, mais au-delà de ça, en vous écoutant, je me disais qu'il faudrait aussi désubériser l'économie, parce qu'on est dans une économie de service, on y revient souvent, qui fonctionne par appel d'air, pour reprendre l'expression qui a été utilisée tout à l'heure, où si vous observez les chauffeurs, les livreurs en motocyclistes, etc., en fait, c'est un appel d'air c'est le principe du panier percé qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que vous avez des gens toujours plus précaires, plus forcément jeunes, hein, mais qui viennent du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, pour alimenter cette économie. Et donc, tant qu'il y a une demande et une offre qui est fondée en grande partie, sans le dire, sur le travail clandestin, en fait, hein, vous savez, on sait qu'il y a tout un trafic plus ou moins toléré. Et donc, l'immigration de travail, c'est aussi beaucoup ça aujourd'hui. Et moi, j'opposerais plutôt que l'avocat spécialiste des cas de sans-papiers qui pourra facilement se recycler ailleurs, il faudrait songer, encore une fois, à refonder l'économie.
Mais c'est effectivement ce qu'avance Jean-Yves Le Gallou dans son interview, quand il dit qu'il faudra véritablement réprimer le travail clandestin. Déjà, en premier lieu, en fait, pour commencer, sans même parler des immigrés légaux, on parle véritablement des clandestins, il faudrait réprimer le travail clandestin, notamment en fermant de manière administrative les entreprises qui y recourent, que ce soit dans le BTP, dans la restauration ou autre, et il faudra être intransigeant. Mais il est clair qu'il n'y a qu'avec une certaine forme de fermeté comme ceci que on pourra décourager, enfin, à terme, et les employeurs de faire travailler des clandestins et les clandestins de venir chez nous en considérant que maintenant la source est tarie. Mais c'était un moment évoqué rapidement sur sur ce que disait Pouvremonti justement sur ne pas négliger le symbole du mouvement politique. Je me rappelle que lors de l'élection de Macron en 2017, si je ne me... Non, dans son mandat précédent, pardon.
Oui, 2017, c'est son premier mandat.
Non, celui-ci.
Ah, le suivant.
Ouais, le suivant. Quand il était face à Marine Le Pen, et qu'on annonce la victoire de Macron à la télévision, dans les micro-trottoirs, certains immigrés, on ne sait pas, enfin, s'ils sont immigrés ou français d'origine étrangère, clandestins ou immigrés légaux, on n'en sait rien. On sait simplement qu'ils sont d'origine extra-européenne, et qui disent « Ah ben, c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir rester ». Parce que, sous-entendu, certains expliquaient, oui, on avait déjà nos valises de fête.
Mais ça,
on parle de Marine Le Pen.
Oui, mais là, c'est tout l'imaginaire qui est drainé depuis le 21 avril 2002. En fait, tout le travail de ce que Elisabeth Lévy appelait la quinzaine antifasciste en 2002, ça a été ça. Et même, ce qui est assez amusant à l'échelle de Paris, si vous regardez les petits autocollants contre Rachida Dati... qui ont été collés de manière militante sur les murs de Paris. On vous disait, pour vous faire peur, attention, elle va expulser tant de milliers de clandestins, elle va expulser tant de sans logique, etc. Enfin, ça donnait presque envie de voter pour elle. Mais la diabolisation de l'adversaire, bon, Taguieff l'a très, très bien analysé, ça date pas d'hier. Et effectivement, la remigration, en fait, à l'extrême gauche, elle est traduite en déportation.
Oui.
Avec tout l'imaginaire.
Oui, complètement.
Mais certains, sans même, alors que Marine Le Pen n'a jamais évoqué la remigration et même n'y est pas véritablement favorable, il me semble, certains considéraient, enfin, ils semblaient déjà être prêts à quitter le territoire français si Marine Le Pen était élue.
Parce qu'ils ont gobé la propagande.
Voilà. Mais très bien.
C'était la même chose pour les législatives de 2025, c'est ça ? Ou 24, en bref.
24.
Où Bardella était donné favori à la suite des européennes. Et effectivement, toute une propagande. Je me souviens très bien d'avoir assisté à un meeting d'Europe Écologie Les Verts, ne me demandez pas pourquoi. Et où la députée européenne qui était... qui s'appelle, bon, peu importe comment elle s'appelle, et qui disait, oui, j'ai cru vraiment devoir faire mes valises et me réfugier ailleurs.
Oui, mais ça, Yannick Noël avait déjà fait.
C'est ça, ils sont incroyables.
Il l'avait déjà fait avec Sarkozy, sans joindre les actes à la parole.
Et pour revenir sur la remigration, effectivement, comme on a très bien dit, à gauche, il y aurait ce mythe résistentialisme, et même chez le patronat, il y aurait beaucoup de personnes et de groupes qui s'y opposeraient. Mais au moins, ce que ça permet, la remigration, c'est de changer la focale. Aujourd'hui, quand on parle d'immigration, on ne parle que des immigrés et assez peu des peuples autochtones qui la subissent. Et effectivement, ce terme permet de remettre au centre le peuple indigène européen.
Ok. Alors, on va reprendre notre discussion après un petit bobino.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Alors bon, je pense qu'on a fait un bon panorama de ce dossier sur la remigration. Élément vient de sortir aujourd'hui, donc je vous enjoins à aller le chercher dans votre kiosquier favori, dans votre gare, etc., etc. Mais aussi Élément, bah, c'est d'autres sujets. Il y a notamment un article sur la mort du grand philosophe européen, enfin grand avec tous les guillemets qu'il faut mettre, Habermas. On a aussi un article sur un phénomène de société médicale, c'est le fameux médicament anti-obésité Ozempic, qui est justement un enjeu aussi important dans les années à venir. On a les chroniques habituelles de notre cher Xavier, qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui, qui va peut-être arriver après, et aussi vous retrouvez la chronique d'Alain de Benoît. Et comme d'habitude, bah, c'est aussi une tradition, on a notre focus sur la politique étrangère. Donc là, je vais me tourner vers Daoud, qui a fait cet entretien avec le général Yakovlev. Alors, le général Yakovlev, qui est maintenant un personnage médiatique, il faut quand même le reconnaître. On se souvient de ses nombreuses interventions, j'ai envie de dire, mémorables sur LCI, notamment sur le conflit russo-ukrainien. Et c'est vrai qu'on a vu une certaine bascule. Alors, est-ce qu'il y a plutôt une continuité? Est-ce qu'il est honnête dans son jugement sur le conflit irano-israélien-américain? Et donc, Daoud, vous avez fait l'entretien de ce général qui est assez intéressant.
Alors, oui, je suis pas sûr qu'il y ait une bascule. Il reste droit dans ses bottes, c'est le cas de le dire. Mais effectivement, alors moi, j'ai été étonné par Michel Yakovlev, que je prenais caricaturalement comme spectateur de LCI, comme une espèce de pro-ukrainien fanatique et otanien unilatéral. Et en fait, j'ai été étonné non seulement par ses prises de position sur l'Iran, mais bon, il est très anti-Trump pour des raisons qu'on pourra expliquer, mais a fortiori, pour un ancien général de l'OTAN, lorsqu'il a expliqué que la guerre de l'OTAN en Serbie en 99 était une faute totalement injustifiée et légitime. Et d'ailleurs, on y revient longuement. Il explique comment il l'a vu, ce qui s'est passé, la responsabilité des États-Unis avec un certain courage. Hein. Il explique que le Kosovo était mieux loti au début sous Milosevic qu'aujourd'hui. Donc en fait,
oui, c'est des prises de parole fortes pour quelqu'un qui a travaillé à l'OTAN. Quand
oui,
même,
et qui est toujours, il ne faut pas s'y tromper, qui est toujours pro-OTAN, qui critique le virage pris par l'OTAN sous Trump, et qui critique aussi un certain nombre de méfaits de la politique américaine de ces dernières décennies. Hein. J'ai cité l'opération en Serbie. Encore plus l'énorme erreur qui a été, même criminelle, qui a été cette guerre en Iran. Donc c'est une espèce d'otanien critique de l'OTAN et qui reste sur ses positions. Il explique même que la Russie, en 99, a eu raison de prendre ombrage de la guerre du Kosovo hein, contre la Serbie. Et pour autant, c'est quelqu'un qui reste radicalement opposé à ce que fait Vladimir Poutine, notamment en Ukraine. Et ça... avec honnêteté, on l'a parfaitement retranscrit dans l'entretien. Hein. Il ne s'agit pas de sélectionner ce qu'on voudrait lui faire dire.
Hein. Et justement, je me souviens d'un édito d'Alain de Benoît qui revenait sur le nouveau découplage des relations, notamment transatlantiques, avec, selon lui, une volonté d'autonomisation de l'Europe. Vous venez de le dire, Yakovlev conserve ce lien atlantique justement à travers l'OTAN. Donc comment il voit la prochaine reconfiguration de l'OTAN? Est-ce qu'il veut que l'Europe, comment dire, rompe les amarres avec les États-Unis? Non, il veut les maintenir. Comment vous voyez sa perspective?
Alors, on n'a pas été aussi loin, contrairement à un géopolitologue que j'avais interrogé il y a quelques numéros, qui est Olivier Jajec, qui lui pense que quasi ontologiquement, en fait, l'OTAN est un instrument de vassalisation de l'Europe et que les États-Unis ont historiquement été en fait les suzerains qui maintenaient un lien de subordination avec l'Europe. En fait, Michel Yakovlev, peut-être avec une certaine outrance, a tendance à tout mettre sur le dos de Trump en expliquant qu'auparavant, les Européens arrivaient à maintenir un rapport de force dans l'OTAN, à faire infléchir les positions des États-Unis, notamment pour des questions de financement, où il cite un exemple où on est passé, où en fait les Européens ont fait avaler aux États-Unis la pilule d'un financement quasiment à 100% sur une histoire d'armes particulière, alors que les États-Unis, même avant Trump, voulaient faire partager la facture. Et ils pensent que, en fait, Trump est une espèce d'éléphant dans un magasin de porcelaine que serait la scène internationale, qui bouscule à la fois le droit international, le droit des marchés, qui a un certain nombre de scandales, des délits d'initiés, notamment de proches de Trump au moment du lancement de la guerre en Iran. Et donc, je ne peux pas vraiment répondre à votre question parce que je ne suis pas le général Yakovlev. Mais voilà, je pense qu'il pense qu'il y a quelque chose à jouer aussi par rapport à la Russie de Poutine, hein, qui est pour lui le grand ennemi.
Bien
donc, si je suis son raisonnement, puisqu'on a un allié qui est quasiment devenu un ennemi, en tout cas un allié pas très fiable, Trump, qui ne connaît que le rapport de force, et de l'autre côté, vous avez les menaces russo-chinoises, donc je déduis, oui, qu'il devrait être pour une Europe qui se réarme.
Mais justement, est-ce qu'il est un petit peu une incarnation de ce revirement d'une partie du camp atlantiste? Je m'explique, le grand ennemi qu'est la Russie, ça par contre, on sait, ça fait depuis longtemps, que c'est un leitmotiv, on va dire, des réseaux néoconservateurs et atlantistes. Vous avez bien mentionné à quel point il se dissociait quelque part un petit peu des néoconservateurs, notamment sur le conflit en Iran.
Et même en Israël.
Et même en Israël, exactement. En revanche, par contre, cette emprise des États-Unis, disons qu'une partie des atlantistes en Europe l'a gobé tout à fait tant que le gouvernement américain était démocrate, qui se faisait la promotion, on va dire, des droits de l'homme, etc., etc., de la démocratie libérale, des valeurs, libérales, de liberté, avec peu de critiques sur, quelque part, les révolutions de couleur aussi. Alors là, il y a un retour sur la guerre du Kosovo, donc là, c'est intéressant. Et donc, cet anti-Trumpisme qu'on retrouve chez beaucoup d'atlantisme en France et aussi en Europe, est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle mutation l'européo-atlantiste qu'on retrouve pas mal, à la fois dans la culture, dans la politique et aussi dans les corps d'armée, notamment à travers l'OTAN?
C'est plus complexe que ça, en fait. Ce serait facile de caricaturer nos adversaires, en tout cas les gens avec lesquels on est en divergence, puisque c'est quelqu'un qui ne s'est pas interdit, en tout cas, bon, à l'époque, il ne l'a pas exprimé publiquement. En 99, il explique bien, sous le président démocrate Clinton, sa thèse, c'est que le président Clinton s'est fait berner par le général Wesley Clark, qui poursuivait une vengeance personnelle contre la Serbie de Milosevic.
Ah, déjà, à l'époque, il était sur cette ligne, alors
À l'époque, il était au général dans l'OTAN, donc il n'allait pas dire « Urbi et Orbi ». Mais il m'explique, et d'ailleurs, il me l'a dit en privé, qu'il avait même des preuves qu'il ne peut pas divulguer, parce que c'est sous le sceau du tout secret défense. Déjà, ce qu'il fait est assez audacieux.
Mais certains vous diront qu'en France, comme Monsieur Hogar avait par contre mis le holà directement sur cette intervention.
Oui, alors c'est une autre génération et lui était encore responsable général français au sein de l'OTAN à l'époque.
Ok, d'accord.
Donc effectivement, alors je pense qu'il y a toujours deux interprétations possibles. À l'époque, on était à l'époque où une intégration de la Russie il y a 25 ans dans l'OTAN n'était pas inimaginable. Ça a été parfois évoqué. Il y a des responsabilités partagées, d'ailleurs. Peut-être.
Oui, les relations se sont réchauffées un petit peu. Il y a eu quelques appels du pied,
et
des contacts avec...
Même au moment du 11 septembre, d'ailleurs. Hein, on l'a oublié, il y a 25 ans. Et donc, vous vous souvenez, si on prend le précurseur de Vladimir Poutine, qui est Yevgeny Primakov, qui a été chef de la diplomatie, qui est un peu le grand théoricien de ce qui est devenu la Russie poutinienne, en fait, 99, si on en parle, ça a été un tournant, ça a été un traumatisme pour les Russes. Et ça, même Yakovlev en convient. Même lui qui a été biberonné à l'école de la guerre froide, et ça, il en convient forcément. C'est pas pour autant qu'il va cautionner ou trouver des excuses à ce qu'a fait Vladimir Poutine dans les marges de l'Empire russe jusqu'en Ukraine. Voilà.
Oui, bien sûr, on va pas revenir sur la genèse de ce conflit, mais vous avez raison.
Ce que je veux dire pour répondre à votre question, c'est qu'Yakovlev, qui ne s'interdit pas de critiquer assez violemment les États-Unis et Israël, n'entre pas forcément dans le moule du néoconservateur atlantiste tel qu'on voudrait le voir. Voilà.
Oui, il est plus nuancé.
Voilà, et avec une dose de réalisme aussi. Et le titre d'entretien qui parle de l'esprit de croisade, enfin de la guerre comme le Viagra des Américains, il a conscience. C'est là le paradoxe. C'est le paradoxe de l'otaniste qui voit les limites du système. C'est qu'il a conscience que du Vietnam à l'Iran, toutes les guerres contemporaines de l'Amérique, en passant par l'Afghanistan et l'Irak, ont été des fiascos. Et la Somalie. Oui, c'est toujours la même chose, en fait. On croit que le déferlement technologique, la supériorité incontestable matérielle va tout emporter sur son passage. Ben non, c'est-à-dire que même un militaire intelligent comprend que la force militaire ne peut pas tout.
Oui, on voit la symétrie à quel point elle peut être forte. Récemment, on voit de plus en plus des vidéos, comme on voyait en Russie, en Ukraine, dorénavant au Liban, où on voit justement des vidéos de drones FPV directement sur les troupes israéliennes.
Donc, surtout, il y a une question que je me pose, puisque n'étant pas ni militaire ni géostratège, moi je me disais, tiens, si les Iraniens sont attaqués, la première mesure de rétorsion à prendre dans le contexte mondial d'interdépendance commerciale et économique, ce serait le contrôle du détroit d'Ormuz, et ça me paraît complètement délirant que Trump, qui d'après Yakovlev n'écoute pas ses conseillers mieux avisés, n'ait pas anticipé ce risque.
Oui, et justement, c'est très bien cette évocation du détroit d'Ormuz. On sait que possiblement, ça va déboucher sur une crise sociale, on va dire, à la rentrée, qui va peut-être influencer les élections 2027. Notre revue concerne aussi les questions intérieures. Alors, Daoud, vous avez fait d'ailleurs un entretien avec, avec Monsieur Jakubowicz, Lukasz Jakubowicz,
oui, c'est ça, ouais.
L'auteur d'un livre sur le vote religieux et la question religieuse et politique en France. On a aussi un article dont j'aimerais parler, qui est une question pas si anecdotique que ça, qui est la question du tuning. Alors vous me direz, on passe un peu du coq à l'âne, mais par contre comme d'une réappropriation d'une culture, d'une réappropriation de l'espace, des outils aussi qu'est la voiture, qui est un moyen de fonctionnement, mais qui est plus que ça, qui est quasiment un mode de vie. Anthony, vous continuez cette longue enquête que vous faites un peu sur les
la sociologie de la France périphérique.
Voilà, exactement. Alors, le vocable sous-culture est toujours un peu péjoratif.
Tout à fait.
Plutôt une contre-culture ou une culture en parallèle qui se crée, parce que c'est toujours intéressant.
Une culture populaire.
Une culture populaire.
Pour reprendre le terme de Christopher Lasch.
Donc, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur la culture tuning et à quel point elle nous dit quelque chose aussi de cette opposition métropole-France périphérique?
Oui, complètement. Alors, c'est des petites enquêtes, des petits travaux que je mène depuis quelques numéros. J'avais commencé par le catch et au numéro précédent par la disparition des bars tabac comme lieu de sociabilisation dans la France périphérique. Là, je me suis intéressé au tuning et à la culture tuning. Alors rapidement, une petite définition pour les auditeurs qui ne sauraient pas de quoi il s'agit. C'est l'art de modifier son véhicule de série, une Peugeot 206, une Ford quelconque, etc. Les modifications apportées sont d'ordre à la fois esthétique et au niveau du moteur. Et ce que vous disiez de très juste, Rodolphe, c'est que ça permet surtout c'est une culture de la France périphérique, en dehors des métropoles essentiellement. Qui a permis à beaucoup de appelons-les les petits blancs, mais c'est péjoratif, de se réapproprier une culture ouvrière qui avait été perdue avec les délocalisations. Et ça s'est beaucoup imposé au tout début des années 2000, à la fin des années 90, à travers le cinéma, des films comme Fast and Furious, des jeux vidéo comme The Need for Speed. Il y avait toute une sous-culture qui était très, très ancrée et très, très puissante. Il y avait même des journaux spécialisés qui arrivaient à concurrencer avec les gros titres de la presse automobile. C'est une culture qui est un peu en déclin. Parce que, en fait, le tuneur, appelons-le comme ça, est automatiquement associé au beauf, au jackie, c'est une culture qui a totalement été dévalorisée par l'intelligentsia et par les médias et par la culture.
Mais justement, Tony, vous qui travaillez pas mal sur ces questions de réappropriation culturelle, on voit aussi... ça me fait penser par exemple au retour de la coupe mulet. On pense que c'est toujours des phénomènes anecdotiques, mais par exemple dans le monde du rugby, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Mmh. Et on voit, peut-être que vous me direz si je me trompe, de plus en plus une réappropriation du stigmate. C'est une expression bien connue des sociologues. Et c'est vrai qu'avant, cette réappropriation du stigmate, elle concernait plutôt les minorités. On parlait des minorités sexuelles et ce genre de choses. Et aujourd'hui, on voit que la réappropriation des stigmates, quelque part, on peut faire le parallèle peut-être avec le canon français où on retrouve le béret, le fait de chanter des chansons paillardes, ou en tout cas des chansons du répertoire français parfois un peu dépassées. Justement, une volonté un peu de s'opposer vis-à-vis, quelque part, de cette nouvelle France, mais vis-à-vis aussi de cette France métropolitaine, blanche, hautaine, etc. Et donc c'est intéressant de voir ces mutations un peu culturelles du peuple périphérique qui essaie de se reconstruire une identité, un peuple qui, faut aussi le souligner, a été désindustrialisé, déclassé, qui a été complètement ravagé par la démondialisation au niveau des structures familiales, des structures culturelles, des structures religieuses, et qui, par Pierre de Touche, essaie de se reconstruire une culture populaire à travers le tuning, à travers la coupe de cheveux, comme j'évoquais le mulet, même si c'est un phénomène assez anecdotique, ou même, par exemple, le retour des canons français, ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez un peu à l'œuvre, justement, dans cette France un peu délaissée?
Oui, il y a de nouvelles formes de sociabilisation qui remplacent, comme j'ai dit, le bar-tabac bistrot, qui remplacent
le
club de foot,
exactement.
Etc. C'est des socialisations vraiment... On crée sur des petits sujets, des petits secteurs, des petits domaines. On n'est plus sur des lieux investis massivement ou une culture partagée par des millions de personnes. C'est très segmenté. Et pour en revenir spécifiquement au cas du tuning, on a vu que les rassemblements, ce qu'ils appellent les rassos dans la culture tuning, ça se fait sur des endroits fonctionnels totalement privés de symboliques particulières qui sont les parkings
d'hypermarchés, notamment
d'hypermarchés, les centres commerciaux. Et on a vu que cette occupation de l'espace, elle a trouvé sa concrétisation politique au moment des gilets jaunes, où en fait c'était à peu près les mêmes formes de rassemblement, de liens communautaires qu'il y avait au moment où on organise un rassemblement de tuning et au moment où on organise l'occupation d'un rond-point. Une des figures majeures du mouvement des Gilets jaunes, c'est Éric Drouet. Et Éric Drouet est à la tête, ou était en tout cas au moment des Gilets jaunes, d'un crew, d'une équipe,
on
voilà,
dire,
on
oui.
est sur Radio Courtoisie, de tuning en région parisienne, je ne sais plus si c'est 78 ou 77, mais bref. Y a vraiment une filiation, mais directe, entre le rassemblement de tuning et la mise en place des Gilets jaunes. Et sur ce point, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup dans l'article, parce que dans les deux cas, c'est des Français qui ont toujours été dévalorisés, qui ne se sont jamais plaints, et qui ont pris le devant de la scène parce que tout le temps infériorisés.
Et surtout, il y a un discours ambiant anti-voiture d'une partie des élites, Exactement. Notamment métropolitaines, et donc on a l'impression que le fossé culturel se creuse.
Ah oui, complètement. Ouais. On a d'un côté je caricature un peu, le bobo à vélo déconstruit.
Ou alors en transport en commun ou en voiture électrique.
Ou en voiture électrique, encore qu'avec les Tesla maintenant, mais complètement. On a aussi le livreur, toute l'économie de la livraison. Et à côté, les personnes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, souvent en parcourant énormément de kilomètres, pour se rendre au le travail ou même pour aller faire ses courses. Et c'est vrai qu'on a vraiment une opposition totale entre la France des métropoles, ici pour prendre le cas de la voiture, et la France périphérique.
Et justement, pour continuer un petit peu sur cette discussion, Daoud, dans le dernier numéro, vous aviez fait une enquête sur Crépol aussi, qui était un sujet...
Roman sur Isère,
voilà, exactement. Et donc, est-ce que vous voyez aussi ces mutations au niveau de la France périphérique? On sait que c'était un affrontement où il y a encore de larges parts d'ombre. Et vous reveniez un peu sur cette... Vie de village qui est pareil, un hybride aussi, parce qu'on reprenait, il me semble, un vieux carnaval pour essayer de restaurer peu une fête populaire, mais qui donnait un mélange assez détonnant.
Oui,
justement.
Parce qu'ils avaient repeint en fait le carnaval de Romans, qui est une vieille tradition qui remonte même au XVIe siècle. Ils l'ont repeint aux couleurs du nouvel an lunaire chinois, là, pour faire coïncider les dates. Oui, c'est une sorte... Et ça a eu un certain succès populaire, d'ailleurs. C'était peut-être le seul événement fédérateur sur place, puisque mon article portait sur la partition avec un exemple de ville particulièrement clivée, même si, malheureusement, ce modèle tend à se généraliser partout sur le territoire. Et pour rebondir sur ce que disait Anthony, le parallèle avec les gilets jaunes me semble très parlant sur le rapport à l'espace. Je me souviens quand au tout début des gilets jaunes, dans les premiers week-ends, je me trouvais à Issoudun, qui est le cas typique de la petite ville désindustrialisée, Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous aviez des couples de chômeurs qui avaient deux voitures, hein, parce que pas parce qu'ils roulaient sur l'or, c'est le cas de le dire, parce qu'ils n'avaient pas le choix, tout simplement. Et comme beaucoup de villes, de petites villes, Issoudun, qui est un centre-ville tout à fait charmant, qui est même évoqué dans La Rabouilleuse de Balzac, en fait, ils ont fait l'erreur, un vieux maire socialiste qui vient de perdre, André Léniel, a fait l'erreur d'externaliser les commerces, disons ça comme ça, ce qui fait que le nouveau centre-ville vivant d'Issoudun, en fait, c'est la Rocade, et je crois que c'est un Leclerc ou un Intermarché, mais le lieu de la rencontre, c'est l'hypermarché local. Et survit malaisément un bar et demi dans le centre historique. Ça me paraît malheureusement un paradigme assez courant.
On a, pour rebondir dessus, on a tué nos centres-villes, en tout cas dans les petites communes, c'est sûr, par l'implantation massive des zones commerciales en périphérie, qui deviennent, comme vous venez de le dire, Daoud, le nouveau point de rencontre, le nouveau lieu où parfois même on passe nos journées.
Exactement, exactement. Et donc, pour revenir sur ces sujets de société, là, on était plutôt, j'ai envie de dire, au microscope. Et ensuite, ou en tout cas, c'est un des enjeux de la revue Éléments, c'est de prendre les enjeux plutôt macroscopiques ou notamment médicaux. Je me souviens d'un article très intéressant sur les microplastiques, l'importance des microplastiques, notamment sur la baisse de la fertilité et à quel point aujourd'hui notre environnement était quelque part nocif pour nos corps, pour nos santé. Et on a un article assez intéressant de notre cher confrère, ou en tout cas cher collaborateur, François Devoyer, sur ce médicament miracle aujourd'hui, ce médicament anti-obésité aux enfants. Pique. Et donc, Alexandre, vous vouliez nous en dire un petit mot?
Oui, parce que l'article de François Devoyer est formidable et je pense qu'il est... Il a réussi à saisir un petit peu la révolution anthropologique qui s'annonce avec ce type de médicament. Je pense que c'est un article qui amènera bien d'autres travaux par la suite, parce que il est vraiment extrêmement éclairant. L'Ozempic, pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas, est un médicament qui utilise une hormone, le nom scientifique est GLP-1, et qui est une hormone qui coupe la sensation de faim. En fait, c'est les gens qui prennent de l'Ozempic, c'est administré sous forme de piqûre. Il y a d'autres médicaments qui utilisent cette hormone, hein, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, c'est cette hormone en particulier. Ça se prend sous forme de piqûre et ces gens-là commencent à maigrir. Et alors, c'est une révolution quasi copernicienne aux États-Unis, qui est un pays qui compte, si je ne me trompe pas, à peu près 40% d'adultes obèses. Oui. 40% d'adultes obèses qui cohabitent avec... aussi le culte du corps, la performance, etc., etc. Donc, bon, c'est l'Amérique qui est véritablement une société, comme le dit très bien François Devoyer, qui fabrique industriellement l'excès avant de produire, là, avec le GLP-1, chimiquement, l'antidote de l'excès. Et ouais. C'est quelque chose qui va... On peut que se féliciter des effets bénéfiques pour les personnes obèses de pouvoir perdre enfin du poids de manière rapide et efficace. Seulement, ça pose aussi une question fondamentale, qui est la question en fait du désir, parce que certains des utilisateurs de l'Ozempic disent « je me sens enfin libre ». Mais alors, pourrait-on dire, est-ce que c'est libre de est-ce qu'on est libéré d'une pulsion entre guillemets de compulsive de rapport à la nourriture? En fait, c'est plus libéré d'une pulsion de consommation. Parce que la nourriture aux États-Unis est véritablement... il faut vraiment la prendre dans un rapport de consommation. C'est des portions gigantesques qui n'ont aucun sens commun. C'est toujours plus... C'est ouvrir le frigo la nuit et se faire un gâteau à minuit. Il y a un côté pulsionnel qui va bien au-delà de la nourriture aux États-Unis. Et on se rend compte que l'Ozempic réduit fondamentalement ce problème, ce qui a dû poser également quelques soucis à des industries qui, elles, se font de l'argent sur ce rapport de pulsion et de consommation, comme par exemple les Walmart ou les McDonald's, où certains restaurants, notamment à New York, se sont mis à proposer des portions beaucoup plus petites qu'ils ne proposaient avant, puisque les clients consommant pour une part de plus en plus importante de l'Ozempic n'ont plus du tout le même appétit pour pouvoir consommer les portions qui étaient servies avant.
Mais justement, justement, avec l'arrivée de Kennedy comme ministre justement de Trump sur ces questions d'alimentation, questions de santé, on espérait une évolution parce que, comme vous le mentionnez très bien, ça revient à notre question d'avant, l'environnement est nocif de base. En réalité, on donne un remède au lieu peut-être de, comment dire, s'attaquer à l'alimentation de base, aux mauvaises habitudes, à la surconsommation avec des portions, vous l'avez très bien dit, il suffit d'être allé une fois aux États-Unis et d'être allé dans un Walmart pour voir la différence de proportion avec notamment les pays européens. Et donc, on a l'impression avec cet énième médicament miracle qu'on prend, j'ai envie de dire, le problème un peu à l'envers. Alors qu'avec Kennedy, on avait eu... un espoir justement de redécouverte de la véritable alimentation équilibrée, de ce genre de choses. Donc comment vous voyez les enjeux? On sait qu'il y a les enjeux financiers que vous avez mentionnés aussi.
Il y a les enjeux bien évidemment financiers, mais il y a aussi, on ne va pas se cacher, je pense, une question politique. Parce que certes, on pouvait avoir l'espoir avec l'arrivée de Kennedy, justement, qui avait fait de la lutte contre l'obésité et pour une bonne alimentation très importante dans son programme au sein du ministère de la Santé. Mais il n'en reste pas moins que on va dire, les résultats qu'apporte l'Ozempic sont évidemment 100 000 fois plus rapides que les résultats qu'apporte un rééquilibrage alimentaire sans tous les efforts qu'impose un rééquilibrage alimentaire, une reprise de l'activité physique et sportive. Donc, la nature humaine étant d'aller vers la facilité, il est quasi certain que l'Ozempic a de bons jours devant lui et que ça va être une solution qui va être utilisée plutôt que de se dire bon, bah, on va arrêter de manger de la nourriture ultra transformée avec des sucres ultra transformés, des triglycérides à foison, etc. On va simplement réduire les portions et on va prendre de l'Ozempic. Après, ceci étant dit, je dis ça un petit peu de manière caricaturale parce que justement, l'Ozempic aussi, les gens ont remarqué que les utilisateurs de l'Ozempic changeaient leur habitude d'achat. Ils se dirigeaient plutôt vers des légumes, vers des protéines, etc., que vers des produits ultra transformés. Donc même là, il y a un changement, ce qui implique une question effectivement anthropologique, c'est que c'est un médicament qui modifie l'être humain chimiquement. Et qui va alors peut-être d'une manière intéressante, parce qu'il vaut mieux manger de bonnes protéines et de bons légumes que des produits transformés, mais il n'en reste pas moins que c'est l'effet d'un médicament et non pas l'effet d'une volonté ou d'un choix de l'individu et de la société sur ce qu'elle a envie de promouvoir. Et il n'en reste pas moins aussi que l'Ozempic a des effets secondaires qui ne sont pas négligeables, et notamment que même si la consommation de protéines, etc., repart en flèche parce que reprise un petit peu du sport ou autre, il n'en reste pas moins que l'Ozempic fait perdre le gras, mais fait aussi perdre une masse musculaire. Et il y a ces fameux visages.
Ça provoque pas une extinction du désir ?
Si, il y a aussi un problème. C'est ce qu'on s'est rendu compte, qu'il pourrait y avoir des utilités, une utilité de l'Ozempic, notamment dans les addictions, dans la cigarette, dans l'alcool ou autre. Mais donc ces pulsions, ce désir sont de plus en plus éteints. Ce qui va en fait, ce qui François de Voyer le dit d'ailleurs, ce qui peut s'apparenter au soma de Aldous Huxley dans Le Meilleur des Mondes, et c'est quelque chose qui à mon avis n'a pas fini de nous interroger dans les années qui viennent.
Oui, et pour rebondir sur ce que vous disiez, Alexandre, François de Voyer l'explique très bien dans l'article. C'est une question anthropologique, et puisqu'on est de l'autre côté de l'Atlantique, rappelez que la limite l'illimité et l'hubris aux États-Unis, on n'est pas dans le même rapport anthropologique qu'ici en Europe.
Oui, justement, on doit continuer à cultiver justement notre différence vis-à-vis des États-Unis. Mais par contre, restons peut-être aux États-Unis. Anthony, vous avez fait aussi la recension d'un roman, j'ai envie de dire, qui peut-être fera date, d'un autre collaborateur de la revue Élément, Bruno Lafourcade, sous son nom d'emprunt.
Bruno Marsan.
Voilà, et exactement, Underdog. Alors déjà, petite digression, je vous remercie Anthony de m'avoir conseillé ce roman. Moi qui en lis trop peu, ça a été une vraie révélation et j'ai repris goût à lire du roman, parce que c'est vraiment un roman, alors qu'il va mettre deux histoires en parallèle avec des liens plus ou moins concrets. Et justement, revenez sur donc sur le pitch, un résumé rapide de ce livre qui a un lien, notamment à travers la figure de Sylvester Stallone à l'Amérique.
Exactement. C'est vrai que dans Éléments, on parle beaucoup des sujets géopolitiques, politiques, mais également, on tient à en parler, une grosse place à la culture et au monde culturel. On parle de peinture, on parle des arts et on parle beaucoup de littérature. Dans ce numéro-là, je chronique l'excellent roman donc de Bruno Marsan, connu sous son vrai nom Bruno Lafourcade, qui s'appelle Underdog, et qui met en parallèle deux vies. La vie de Sylvester Stallone et celle du héros du roman, qui est Richard Moreira, mais qui est en fait la vie de Bruno Lafourcade. Et Underdog, en anglais, ça signifie, si on prend textuellement, c'est l'autocar. Vraiment celui qui n'a aucune chance de s'en sortir.
Le bon à rien,
celui de... Voilà, il a... Et les deux... trajectoire parallèle de Sylvester Stallone et du personnage de Richard Moreira vont être parallèles, c'est-à-dire qu'en fait ils vont réussir à sortir de leur condition initiale de raté. Pour Sylvester Stallone, on connaît bien sa trajectoire. Il est quasiment mendiant dans les années 70 à New York.
Oui, un des atouts du livre, c'est que c'est quasiment une biographie sur la vie de Stallone. Oui. Et que j'ai envie de dire que ça réoriente un peu, quelque part, les préjugés qu'on pouvait avoir sur la personnalité. On le voit à travers ses films, Rocky, Rambo, etc. Et c'est vrai que là, on a un portrait très touchant. Que ça a été vraiment quelqu'un qui a vécu dans la rue, qui est passé par des phases très 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 difficiles avant de connaître le succès. D'ailleurs, il y a souvent des parallèles qui sont faits avec la vie notamment de Jack London. On apprend aussi que Stallone est un aficionado de Poe, l'auteur anglais. Donc là-dessus, c'est aussi un des intérêts de ce livre, en plus de la vie du narrateur, bon, qui est la vie, on l'a bien compris, de Bruno, etc., qui est aussi tout aussi intéressante.
Oui, c'est ça. Ça permet en fait de jeter la lumière sur quelqu'un dont on pensait qu'il... quand on regarde les films Rambo, pas forcément le premier, mais les autres, c'est un Américain bourrin qui fait la guerre. Même chose pour Rocky, pas forcément le premier encore une fois, mais les suivants, où on peut penser qu'intellectuellement, c'est un niveau assez bas. Et au final, on se rend compte, grâce à Bruno Lafourcade, que c'est absolument pas le cas, que Stallone est quelqu'un de très lettré. Il a une trajectoire vraiment improbable et il incarne assez bien ce qu'on appelle le rêve américain.
Oui, là, exactement. Et donc, revenez un peu sur cette trajectoire de Bruno, collaborateur de longue date à la revue Éléments. Et là, normalement, c'est le roman qui va lui permettre d'accéder à la gloire.
On espère. Il n'a pas encore remporté de prix littéraire. Ils sont trustés par plutôt d'autres maisons d'édition que Séguier, malheureusement. Petite parenthèse pour dire que les éditions Séguier et le Cherche Midi, qui sont le même groupe, font un travail exceptionnel vraiment en termes de production de romans. Dans Underdog, on a la vie de Bruno Lafourcade, qui a vraiment vécu de plein de ce qu'on appelle de manière péjorative des petits métiers, éboueur, aide-soignant, etc. Et c'est parfaitement retranscrit, cette revanche des tocards est vraiment très très bien retranscrit dans ce roman, dont j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie, s'ils sont intéressés par la littérature, à se procurer.
Oui, et donc là on va parler d'un autre sujet, toujours de politique intérieure, mais peut-être qui nous sert un peu main poche, quoique j'aimerais avoir votre avis, messieurs, sur ce portrait de Thomas Entier de Giuliano da Empoli. Ah, oui. Alors là, je trouve que c'est un phénomène vraiment intéressant, parce que moi je le rangerais, vous savez, dans cette classe des nouveaux intellectuels bon chic bon genre, qui présentent bien, qui sont assez intéressants à écouter. On pense par exemple à Frédéric Martel, qui s'est récemment fait connaître avec son livre Les ennemis de l'Occident, et on voit un nuancier toujours de la même couleur, hein. Ça reste des gens qui restent en tout cas qui ne dépassent pas les clous, mais qui vont parler une certaine langue qui va plaire à une certaine intelligentsia, ou en tout cas on va dire aux médias centraux en règle générale. Et donc, j'aimerais revenir sur cette figure, Giuliano De Ampoli, qu'on avait connu pour son fameux livre sur
Le match du Kremlin.
Voilà, le match du Kremlin, plus récemment, mais même avant, les stratèges du chaos, où il revenait, ou en tout cas, il fait vraiment partie de cette cohorte d'intellectuels très critiques du populisme, très critiques des ennemis de l'Occident, avec les guillemets qu'il faut mettre, c'est-à-dire Chine, Iran, aussi la figure de Propoutine, ils sont souvent de Trump, je veux dire, ils sont souvent très critiques de Trump, comme on en a discuté juste avant. Et donc, vous, Daoud, est-ce que vous voyez un peu cette nouvelle galaxie d'intellectuels qui est en passe, j'ai envie de dire, de remplacer les anciens qu'on connaissait un peu plus? Je pense par exemple à Bruckner ou même à BHL, qui étaient des habitués des plateaux. Et aujourd'hui, on a cette nouvelle cohorte, notamment aussi quelques intellectuels en vue du Grand Continent, qui est une feuille de chou géopolitique d'un assez bon niveau, oui. Il faut quand même le reconnaître. Avec des auteurs intéressants, exactement. Et donc, comment vous voyez cette arrivée de nouveaux intellectuels?
Alors, effectivement, il y a une filiation que vous évoquez avec les nouveaux philosophes, hein, BHL... Glucksmann père dans sa dernière période, qui était un peu la préfiguration de ce qu'allait devenir le néoconservatisme, hein, qui, comme chacun sait, est parti de la gauche, hein, des gens qui ont balancé leur marxisme de jeunesse, parfois très radical, beaucoup de Mao, et qui se sont réfugiés, en passant par le tiers-mondisme, dans une espèce d'universalisme droit de l'hommiste, beauté, hein, BHL étant un peu la partie médiatique la plus spectaculaire, parfois clownesque, l'incarnation de tout ça.
On pense à Goupil aussi, qui est très clownesque.
Oui, alors là, encore plus clownesque, oui, voilà. D'Ampoli, j'étais heureux de lire l'article que Thomas Entier lui a consacré, parce qu'en fait, il formule ce que ce qui me suscitait en moi. En fait, effectivement, si on prend la politique mondiale ou européenne comme un marché avec une offre et une demande, ben en fait, D'Ampoli voit le problème exclusivement du côté de l'offre, avec grosso modo des populistes, des tyrans, des empires, de Trump à Xi Jinping. Et en fait, à aucun moment, il pose la question de la frustration démocratique qui prouve à juste titre un certain nombre de peuples, notamment en France, par rapport aux questions notamment qu'on a évoquées. Et effectivement, pour le dire un peu caricaturalement, sont des partisans du statu quo, de la démocratie libérale telle qu'elle est installée, qui sont systématiquement du côté du manche.
Très pro-Europe.
Voilà.
Justement.
Et d'ailleurs, le jour où j'ai vu que Emmanuel Macron s'intéresser, consulter D'Ampoli pour comprendre Poutine, ça m'a encore plus inquiété, en fait, sur l'espèce de vide intellectuel qu'il y a dans notre politique étrangère. Et oui, que dire, effectivement, Martel, je vais m'y intéresser de plus près bientôt, avec son livre qui s'appelle Occident
avec un S. Les ennemis de l'Occident.
Occident avec un S, il me semble.
Oui, voilà. Ah, oui, Occident avec un S. Voilà.
Effectivement, ouais. En fait, il définit l'Occident par ses ennemis. Douguin, etc., un certain nombre de figures un peu charismatiques et paradigmatiques qui montent en épingle. C'est la même démarche qui est de dire, c'est exactement ce que Jean-Claude Michat appelle l'empire du moindre mal, c'est-à-dire que Martel, qui était plutôt chevènementiste, il me semble, il y a 25-30 ans, maintenant explique, en fait, à force de fréquenter des Douguin, etc., de me rendre en Chine dans des colloques contre l'Occident, l'Union européenne, c'est pas si mal que ça, on est toujours dans l'économie de marché, c'est pas si mal que ça, en fait, c'est à défaut de vous vendre un modèle satisfaisant, c'est le même ressort que la diabolisation. On vous dit, attention, si vous infléchissez le cours des choses, ce sera pire. Et puis, ce sera la dialectique des années 30, etc., les heures les plus sombres.
Thomas Entier démontre très bien dans ce portrait au vitriol, assez dur, que justement, à aucun moment, il y a une remise en cause de ce logiciel. Et j'ai même envie de dire, c'est plutôt... une volonté de pousser les gouvernements à s'hérisser toujours plus de protection, à devenir plus dur vis-à-vis de ses ennemis de l'extérieur. Et justement, cette contestation populaire est absolument pas légitime. Elle est toujours soit dirigée depuis l'extérieur, soit la résultante de passions tristes. Vous, messieurs, Anthony et Alexandre, comment vous voyez justement cette nouvelle flopée comme ça d'intellectuels qui commence à essaimer sur tous nos plateaux? Je crois qu'il y a eu un portrait du monde aussi sur une des figures du Grand Continent récemment. On sait que c'est des personnalités...
Gilles Gressani, non, voilà, le jeune, 35 ans. Oui.
Exactement. Et c'est toujours quand même... un peu des profils semblables, de bonnes écoles, oui. Parfois qui sont passés par, par la haute administration, ou en tout cas qui ont déjà eu des expériences à travers des cabinets. Je crois que Giuliano D'Ampoli avait eu un passage par le cabinet de Renzi.
Oui, oui.
Donc on voit que ce n'est pas non plus des intellectuels qui sortent de nulle part. Donc comment vous voyez ce nouveau phénomène à l'œuvre, monsieur?
C'est la formule de Lampedusa, il faut que tout change pour que rien ne change. Effectivement, comme vous l'avez déjà évoqué, une continuité. Je ne sais plus quel était l'auteur de ce livre qui s'était appelé Les Éditocrates. Ah. Il y a un petit peu ce côté-là. Il faut simplement renouveler. Il faut renouveler, évidemment, le cheptel. C'était peut-être un petit peu méchant, mais on va dire il faut renouveler les visages.
C'est pas Pascal Boniface, non, Les Éditocrates.
C'est possible. J'avoue que j'ai un doute, mais c'est possible.
Caroline Fourest, etc.
Oui, voilà, il y avait Caroline Fourest, il y avait différentes personnes. Et il y avait
d'ailleurs,
aussi
ils sont très bien avec la galaxie franc-tireur.
Oui,
de
bien sûr. Fourest, c'est bien sûr.
Il y avait leur ligne.
Le fameux terme aussi de chien de garde, je crois, c'était Nizan qui avait utilisé
Serge Halimi,
qui avait fait les nouveaux chiens de garde. Mais en fait, voilà, on est dans la continuité et le système, pourrait dire, pour paraphraser quelqu'un, c'est qu'il se gouverne mal mais se défend bien. Et qu'est-ce que c'est que c'est justement ces nouveaux éditocrates et c'est justement les garde-fous. Et ceux qui rappellent un petit peu le bon peuple à l'ordre,
ou les gardes-chiourmes,
mais qui rappellent le bon peuple à l'ordre si jamais il devait partir du mauvais côté, prendre un mauvais chemin. Et effectivement, comme l'explique Thomas Entier dans son article, le livre de D'Ampoli prétend vouloir expliquer que si le peuple pense ce qu'il pense aujourd'hui, c'est
parce qu'il est manipulé. Oui, oui.
Et comme si on avait dû attendre Facebook, Twitter et compagnie pour pouvoir penser librement et non pas dans la doxa dominante du système actuel.
Oui, et juste pour conclure très rapidement, à la lecture de l'article de Thomas, on se rend bien compte de la déconnexion totale entre ces nouvelles élites intellectuelles et le peuple.
Oui, bah comme d'habitude pour les enjeux. Et c'est intéressant parce qu'il critique le complotisme qu'on retrouve notamment dans les mauvais sentiments du peuple, en disant que justement des gens complotent sur ces complots à travers la figure de Bannon. Alors ça, c'était il y a quelques années dans Les Ingénieurs du Chaos et dans de nouvelles figures à travers les réseaux, les ingérences étrangères. Bon, en tout cas, merci messieurs pour votre travail et pour ces interventions, pour la présentation du numéro 220 de la revue Éléments. J'espère que j'aurai remplacé du mieux possible notre cher Xavier qui s'en sortira des
qui
méandres,
est toujours bloqué dans le
qui train. Est toujours bloqué dans ces transports en commun. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro du Libre Journal de la Nouvelle Droite.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Nouvelle Droite, dirigé par Xavier Eman et assisté de Rodolphe Carte. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 26 mai 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.